Culturez-vous, votre émission qui aborde tous les sujets culturels du territoire chartreuse et alentour sur RCC.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale, dans cette émission consacrée à l'autrice, l'auteur, les deux se disent, de la Beauche, Bénédicte Toschi, pour nous parler d'elle, de son parcours, de ses livres aussi, et plus en détail de son livre « Né trop tôt, jugé trop vite ». Bonjour et bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, Bénédicte.
Bonjour.
Merci d'être là dans les studios du Grand Son. Alors avant de parler de vos ouvrages, on va faire connaissance avec vous. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre enfance, de votre rapport à la lecture.
Eh ben écoutez, moi c'est Bénédicte, j'habite sur la commune de La Beauche en Chartreuse et du coup j'ai lu depuis toute petite, j'ai toujours aimé les livres. Quand j'étais à l'école et que généralement je ramenais des bons bulletins scolaires, mon cadeau était un livre. Et du coup voilà, j'ai toujours baigné dedans jusqu'à me mettre à écrire de mon côté.
Ouais, alors ça, vous lisiez depuis petite du coup. Et puis en grandissant, vous êtes dirigée plutôt vers quel style? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de livres différents, plein d'univers différents.
Alors j'ai lu beaucoup de romans. Du Marc Lévy, Guillaume Musso principalement, où j'attendais avec impatience la sortie du nouveau. Et j'ai commencé à écrire quelques poèmes d'ado au fond de ma chambre.
C'est comme ça que ça commence aussi. Alors justement, par rapport à cette lecture, qu'est-ce que ça vous apportait ?
Une petite bulle d'évasion, en fait. L'avantage de la lecture, c'est que chacun s'imagine les personnages et l'histoire dans sa tête, dans son univers. Et voilà, ce côté un petit peu déconnexion et l'envie à chaque fois d'en savoir plus à la prochaine page.
Vous étiez du genre à dévorer le livre, vraiment, et puis à attendre la suite, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, j'aime bien les livres où on a du mal à le quitter avant la dernière page.
C'est ça. Donc, il y en a plein. Et vous êtes plutôt alors livre vraiment avec l'objet, j'allais dire, parce que des fois, c'est vraiment un objet avec du travail sur la couverture, etc. Ou plutôt liseuse, un peu plus moderne.
Je lis un petit peu à la liseuse. Après, le vrai sentiment de lecture, le vrai plaisir reste quand même pour moi avec le livre. Après, la liseuse, ça a ses côtés pratiques. On part en vacances, ça permet d'emmener dans une moindre place plusieurs livres.
C'est ça, c'est le côté pratique quand même.
Exactement.
C'est moins de place et on peut mettre beaucoup plus de livres. Sinon, c'est vrai que dans la valise, ça fait un peu plus lourd, quoi.
Exactement.
Tout à fait. Bon, ben voilà pour votre parcours un petit peu et votre rapport à la lecture. Et puis, on va parler maintenant de ce livre pour lequel vous êtes avec nous aujourd'hui. On en parlera des autres dans la deuxième partie. Mais dans cette première partie, surtout consacrée à « Né trop tôt, jugé trop vite ». Alors, racontez-nous le déclencheur peut-être de l'écriture de ce livre.
Alors, c'est tout simplement partie d'une histoire vraie qui est notre histoire personnelle à nous, accusée à tort de maltraitance sur nos enfants. L'idée était principalement d'ouvrir, au fait, sur cette histoire, de faire réfléchir. L'histoire est 100% vraie, ça a été romancé dans l'ouvrage, mais à aucun moment il n'y a de la fiction, en fait tout a existé. Certaines parties ont été, on va dire, adoucies pour permettre au grand public de le lire. Alors c'est pas, l'idée n'est pas d'aller faire le procès de quelqu'un, c'est vraiment une dénonciation, une réflexion autour d'une histoire vraie. Alors c'est le syndrome du bébé secoué, et tout simplement en fait l'idée de montrer aux gens, de dire, bah voilà, aujourd'hui, bah on peut être les voisins de tout le monde et sans forcément savoir ce qui se passe. Il y a des gens qui se battent, enfin, qui se sont battus, qui se battent et qui se battront encore demain pour justement ces accusations qui vont trop vite, où on nous rentre dans des cases beaucoup trop rapidement. Et une fois que vous êtes rentré dans les cases, et bah malheureusement, la machine se lance et plus rien ne l'arrête. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour montrer et crier au monde entier que vous n'avez rien fait. À partir du moment où ils vous ont mis dans une case, plus rien ne se passe, plus de réflexion. Et bah malheureusement, vous vous faites écraser et si vous n'êtes pas solide, c'est très très compliqué. L'idée, c'est pas d'aller faire un procès, c'est de montrer à certains parents qui l'ont vécu ou qui le vivent, bah, qu'ils ne sont pas tout seuls et que ça peut aussi bien finir. Et aussi bah, une dénonciation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il existe des enfances traumatisées, des enfants qui sont maltraités. Bah, tout ça ne devrait jamais exister, quoi, tout simplement.
Donc l'idée à travers ce livre, c'est bon, à travers votre histoire, mais c'est surtout, comme vous le dites, c'est de mettre en lumière tout un processus, finalement, quand il y a une accusation, peut-être que pour faire part aussi au plus grand nombre, au grand public, la procédure, entre guillemets, et que des fois, on ne prend pas forcément le temps. C'est ça, il y a un manque de prise de temps par rapport à cette procédure.
Exactement. C'est-à-dire qu'au fait, une fois que la machine est lancée, vous ne l'arrêtez plus, tout va très vite, tout paraît complètement déconnecté. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il ne vous reste que vos yeux pour pleurer. Et si vous n'êtes pas fort, vous passez au rouleau compresseur, tout simplement. Aujourd'hui, des familles en sont complètement démolies. L'idée de ce livre, c'est d'avoir un roman qui soit fort, qui soit aussi profondément humain, mais avec un côté quand même très nécessaire pour dénoncer ce qui se passe, essayer, bah, pourquoi pas, de faire avancer les choses, hein, c'est l'idée, parce que bah, voilà, effectivement, peut-être se concentrer sur des vrais cas de maltraitance où bah, malheureusement aujourd'hui des enfants sont maltraités et personne ne fait rien, se concentre sur des familles qui n'ont rien fait, mais parce que vous êtes rentré dans une case, tout le monde arrête d'ouvrir un dossier médical, de chercher, nous on s'est porté volontaire pour aller faire des tests, même de génétique, ce genre de choses, tout nous a été refusé parce qu'on était rentré dans les cases de la maltraitance.
D'accord. Et ça a mis combien de temps, du coup, tout ça ? Parce que vous dites c'est un rouleau compresseur, ça va très vite. C'est vrai qu'au niveau de la durée de tout ça ?
Ça a duré à peu près 5 ans.
Ah oui, donc quand même. Ça a été peut-être assez intense. Ça a pris 5 ans quand même, le temps de tout ça.
Ça a pris 5 ans pendant lesquels, bah, dès que la sonnette de chez vous sonne, vous tremblez. 5 ans pendant lesquels, bah, vous n'osez pas confier vos enfants parce que bah, même si c'est la famille, chose comme ça, vous faites confiance, mais vous dites le moindre truc, c'est fini. 5 ans pendant votre vie, au fait, est laissée en suspens, entre parenthèses, et vous attendez. Et nous, les 6 premiers mois de nos enfants, en fait, sont nés grands prématurés à 6 mois de grossesse. Les 6 premiers mois, c'était de l'hôpital, des accusations, les tribunaux. Enfin voilà. Et du coup, tout s'est enchaîné, tout a été super vite.
Et pendant cette procédure, est-ce que vous avez été accompagné ou est-ce que vous vous êtes fait aider ? Enfin voilà, comment ça s'est passé pendant ces 5 ans pour vous là ?
Et bah du coup, au tout début, on a regardé sur Internet, comme tout le monde, et on est tombé sur une association qui s'appelle Adikia. Adikia veut tout simplement dire injustice. En fait, ça a été créé par une maman qui a elle-même été accusée à tort du syndrome du bébé secoué, syndrome de Silverman. Et on a trouvé des parents qui vivaient ou ont vécu la même chose que nous. Donc, bah voilà, les conseils, on est tombé dans quelque chose, au fait, où on se disait, mais c'est pas possible, ça peut pas exister. Et au fait, si. Et d'un côté, heureusement que cette association était là, parce que bah, ça nous a permis de mettre en place des démarches, de contacter un avocat, tout ce qu'on n'aurait jamais fait, parce que tout simplement, pour nous, bah, on n'avait rien à se reprocher, au fait. On n'a jamais maltraité nos enfants, et que bah, quand vous êtes blanc, vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi aller prendre un avocat ? Pourquoi penser à sa défense, au fait ?
Oui, et puis quand vous êtes pris dans le truc, on ne pense pas forcément à tout non plus. Donc, et on n'a pas toutes les billes d'avoir des gens et des assos qui vous donnent des billes, c'est bien aussi. Quoi.
Donc ça fait peur parce que du coup, ça vous montre jusqu'où ça peut aller. Et du coup, bah, vous y allez la boule au ventre parce que ça fait peur. Mais d'autre côté, bah, ça vous permet d'essayer de vous protéger au maximum.
Alors là, maintenant, par rapport à tout ça, c'était quoi la décision finale ? Vous en êtes où par rapport à tout ça là ?
On a été blanchis par le tribunal. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune mesure. On a eu la chance de garder nos enfants et aujourd'hui ce livre est là justement pour témoigner tout ça aussi. L'histoire est très compliquée mais ça peut aussi bah, bien finir quoi en fait.
Et du coup vous avez écrit tout ça, alors au bout de combien de temps de la fin de la procédure ? Quelle était votre intention avec l'écriture de ce livre ? Peut-être le besoin d'évacuer ?
Le besoin d'évacuer en fait, tout simplement. Poser tout ça sur papier aujourd'hui m'a permis de le sortir. Je pense de passer une étape nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Alors, on ne l'oubliera jamais, hein. Il y a une vie avant, une vie après, clairement. Je pense qu'on n'est plus les mêmes personnes. Mais ce livre m'a permis bah, justement de le poser. Et plus tard, pour les enfants, de pouvoir relire à travers ces lignes au fait, bah, la vraie histoire.
Alors justement, par rapport à cette procédure après, le temps de l'écriture, il a fallu un temps quand même entre le moment de la fin et puis l'écriture de ce bouquin.
3 ans.
Ouais, 3 ans, le temps de digérer, tout ça.
De passer à autre chose, de savoir réellement qu'est-ce que je voulais mettre, comment je voulais le faire. Est-ce que je voulais le faire en livre ? Est-ce que je voulais bah, contacter la presse, faire la une des journaux ? Le livre a été aussi une manière de pouvoir y aller, mais de manière assez calme, je dirais. Parce que, encore une fois, les enfants ont aussi, je pense, souffert de cette situation. Et je ne voulais pas les exposer. Enfin, avec mon mari, on s'est dit que, voilà, on ne voulait pas les exposer outre mesure.
Et puis, c'est quelque chose qui reste, surtout le livre aussi.
Exactement.
Qui reste un témoignage qu'effectivement, des fois, un truc dans un journal ou quoi, bon, bah, c'est un peu plus compliqué, là. Il y a vraiment l'objet qui est là, qui raconte le récit, tout ce qui s'ensuit, quoi.
Un journal est très local, un livre peut dépasser des frontières. J'en ai vendu jusqu'au Canada, en Belgique. Voilà, aujourd'hui, le livre peut vraiment partir très loin.
Et ce livre, vous l'avez mis combien de temps à l'écrire ?
J'ai dû mettre 4 mois.
Ouais, donc ça a été assez rapide. Finalement, une fois que vous vous êtes lancé dans l'écriture, ça a été assez facile.
Alors, facile, non. Facile,
alors,
non.
Pas forcément pour poser les mots, oui, mais vous aviez tout ce qu'il fallait pour pouvoir le coucher sur papier.
Ah bah, je connais l'histoire. Pour le coup, je ne connais malheureusement que trop bien l'histoire. Encore une fois, il n'y a aucune fiction, donc je n'ai pas eu besoin à chercher ce que mes personnages allaient faire. Les prénoms ont été changés tout simplement dans un but de discrétion, on va dire. Mais je connais l'histoire, je la connais que trop bien. Et du coup, bah, effectivement, ça a été quand même très simple sur le papier à écrire. C'est l'aspect émotif qui a été quand même beaucoup plus compliqué à gérer.
Oui. C'est savoir prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on écrit. Ça ne doit pas être forcément évident, justement, pour que ça soit accessible au plus grand nombre, finalement, aussi. Alors, parce qu'il y a cette part-là.
Oui, et c'est surtout pour en faire une histoire vraie, quelque chose de poignant, d'inspirant, de rassurant pour certains, de dénoncer ce qui s'est passé, de montrer aussi jusqu'où peut aller la force de l'amour et ses liens. Et c'est surtout, je ne voulais pas créer au fait de ce livre, je ne voulais pas faire le procès d'une personne ou d'une autre.
Oui, et alors justement, vous avez parlé de livres, parce que pour écrire, c'est une chose, mais pour publier, c'en est une autre. Parce qu'il existe l'auto-édition, faire appel à des auditeurs locaux ou moins locaux pour le coup. Donc, quelle a été votre démarche par rapport à ça? Est-ce que ça a été compliqué?
Non, pas du tout. En fait, j'avais écrit un livre déjà il y a une dizaine d'années pour lequel je suis passée par une maison d'édition. Ça avait été très compliqué, très onéreux également. Et du coup, j'ai découvert sur une plateforme aujourd'hui que tout le monde connaît, hein, qui est mondiale, qui nous permet justement sur l'auto-édition, donc plus de travail, parce que l'auto-édition, c'est la mise en page, c'est la correction, c'est l'écriture, c'est la quatrième de couverture, c'est la page de couverture, le dessin, enfin bref, on gère tout de A à Z. Pour le coup, bah voilà, c'est mon livre. Donc ce qui plaît, c'est moi. Ce qui plaît pas, c'est moi.
Voilà, tout. C'est tout, vous. Et la maîtrise de A à Z, c'est ça aussi, de maîtriser le processus complètement, quoi.
Exactement.
Donc ça, c'est bien. Et justement, par rapport à la couverture, quatrième de couverture, tout ça, c'est vous qui avez tout façonné ou vous vous êtes fait un petit peu aider aussi là-dessus?
Non, c'est moi qui ai tout fait. Et ouais, la seule chose qui n'est pas de moi, c'est le titre que mon mari a trouvé.
Ben voilà, il a participé aussi effectivement à tout ça. Et au récit, j'imagine, il a été relecteur.
Alors, sur une certaine partie, après, on n'a pas du tout la même approche, au fait, et je pense que ça a été un peu compliqué. Et lui, pour le coup, de base, n'est pas forcément un très grand lecteur.
D'accord. Donc là, c'est vous qui avez pas mal géré la chose. Et pour la relecture, c'est quoi? C'est la famille? Vous vous adressez à des libraires?
Enfin, une amie qui l'a relu entièrement et je l'ai envoyé à ce qu'on appelle une bêta lectrice, une personne que j'ai trouvée très gentille sur les réseaux sociaux, qui l'a lu et qui m'a fait son retour en fait, sur l'histoire, mais une personne neutre que je ne connais pas, qui ne connaît pas mes enfants et qui ne connaissait pas l'histoire avant d'avoir le manuscrit dans les mains.
Oui, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui soit complètement étranger à tout ça.
Permet d'avoir un avis objectif.
Tout à fait, exactement. Bon, bah, très bien. Voilà pour ce livre qu'on peut retrouver du coup en ligne.
Oui, exactement.
Voilà, sur les plateformes bien connues. Voilà, sur lesquels on commande plein de choses.
Exactement, où vous trouvez des livres et beaucoup d'autres choses. Sur les réseaux sociaux également, sur Facebook, TikTok et Instagram, sur benedict.toski.auteur. Au fait, vous retrouvez celui-ci, vous retrouvez des passages du livre, des passages aussi qui sont lus, et aussi le plus précieux, l'avis des lecteurs.
Eh bien oui, effectivement. Bon ben voilà, n'hésitez pas si le cœur vous en dit, amis auditeurs, auditrices. Alors on va se retrouver dans une deuxième partie pour parler, vous l'avez dit, hein, vous avez écrit d'autres choses, d'autres oui, livres. Mais pour l'instant, on va se faire une petite pause musicale que vous avez choisie d'ailleurs. Racontez-nous ce titre et pourquoi ce titre est Startiste.
Eh bien tout simplement, ce titre raconte un enfant qui a quelques difficultés et des parents qui s'en veulent. Et tout simplement, aujourd'hui, un de nos enfants, enfin une de nos filles, a pas mal de difficultés liées à la grande prématurité. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses, et part de cette musique, au fait, voilà, c'est la force de l'enfant derrière. Et je pense que cette histoire nous aura beaucoup anéanti, mais nous aura aussi rendu beaucoup plus forts.
Voilà, c'est Miracle de Soprano qu'on s'écoute. Et on se retrouve juste après. À tout de suite sur Radio Couleur Chartreuse.
Maman, ne pleure pas, oui tout va bien, ma vie est un miracle. Même si parfois j'ai mal, mais tout va bien, ma vie est un miracle. Je ne souris pas par dépit, non tout va bien, ma vie est un miracle. Essaie de dormir cette nuit, car tout va bien, ma vie est un miracle. C'est vrai que je ne cours plus, mais ailleurs, d'autres courent sur des mines. Je me nourris avec ces tubes, mais ailleurs, d'autres ne connaissent que la famine. Retour, solitude. C'est vrai que j'ai raté quelques cours, mais ailleurs, d'autres rêvent de faire des études. C'est vrai que je suis moins à la maison, ailleurs, d'autres vivent sous un tas de ruines. Je ne sous-estime pas mon cas, ailleurs, d'autres n'ont pas la force que tu me livres. Donc, maman, ne pleure pas. Oui, tout va bien, ma vie est un miracle. Même si parfois j'ai mal, mais tout va bien, ma vie est un miracle. Je ne souris pas par dépit. Non, tout va bien, ma vie est un miracle. Essaie de dormir cette nuit. C'est quelques mots comme un pansement et une pommade pour te remercier de cet amour dont je puise tout mon courage. Tu es mon intraveineuse, avec toi la vie est un miracle. Mais te voir si malheureuse, c'est ce qui me rend vraiment
Nous sommes de retour sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale, dans cette émission consacrée aux différents livres qu'a écrit donc Bénédicte de la Beauche, toujours avec nous dans les studios du Grand Son. Ça va toujours ?
Ça va toujours.
Merci d'être là. Alors, on continue de parler ensemble avec vous de vos différents livres que vous avez sortis. Ça remonte à une grosse dizaine d'années maintenant, le premier livre, c'est ça, 2016 ?
Oui, c'est tout à fait ça.
Donc, allons-y, racontez-nous. Alors, on va parler des différents livres que vous avez sortis, leur titre et puis le résumé. De quoi il leur tourne ? Qu'est-ce que ça nous raconte ? Pour donner un au lecteur d'aller fouiller un petit peu.
Alors en 2016, j'ai écrit Le poids des mots, qui a été aussi inspiré de faits réels, mais beaucoup plus romancé, avec une part de fiction pour le coup. C'est l'histoire de Lisa qui déménage à l'autre bout de la France et qui, en remontant dans le nord pour aller voir sa famille, se retrouve confrontée à un fait divers. Donc l'idée, c'est le choc du journal sous les yeux où chacun pourrait lire le fait divers et se retrouve confrontée au fait à ce fait divers qui la concerne directement.
Qu'est-ce qui a été le déclencheur d'écriture de ce livre ?
Pareil, une histoire de vie histoire un petit aussi. Peu compliquée.
Ok. Donc là, c'est le premier en 2016. Ensuite ?
Ensuite, il y a Né trop tôt, jugé trop vite. Donc j'ai attendu une dizaine d'années. Deuxième passage de vie un peu compliqué. Et on en a parlé tout à l'heure.
Donc, exactement. On réécoute la première partie de l'émission. Si voilà. Vous arrivez en cours de route. Ou si vous arrivez en cours de route, ça sera aussi possible, dispo en podcast sur radiocc.fr. Ne vous inquiétez pas. Ensuite,
j'ai écrit Le prix du silence. Alors là, c'est un petit peu plus particulier, c'est-à-dire que c'est inspiré de faits réels, mais ce n'est pas du tout mon histoire. J'ai prêté ma plume et j'ai joué le rôle de biographe sur le pouvoir de la parole, l'attachement, la reconstruction pour une personne qui fait partie au fait de mon cercle d'amis et qui, pour le coup, a eu une enfance assez chaotique, assez compliquée. Ce livre, je pense, enfin, j'espère en tout cas, lui a permis de se libérer et d'avancer dans son parcours de vie personnelle.
Tout ce qu'on souhaite. Ensuite, autre roman ?
Ensuite, on est parti sur de la fiction pure et dure, sur le plaisir d'écrire et ce besoin d'écrire. Alors, je pense que dans tous les livres qu'on écrit, une part de nous, au fait, reste dedans. Et on est sur L'ombre du 14 février, un thriller psychologique intense, captivant, avec quand même un plot twist à la fin. Je laisse découvrir les lecteurs et avoir leur avis. L'idée, c'est d'avoir des personnages qui soient marqués, qui soit profond, un mystère dès les premières pages pour ancrer le lecteur au fait directement et avoir envie de ne jamais lâcher ce livre jusqu'à la dernière page.
Un peu comme vous finalement. Voilà, faut attraper le lecteur dès les premières et hop hop hop, qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout.
Alors moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si j'accroche pas dans les premières pages, pour le coup j'ai du mal à finir. Donc je me dis que peut-être des lecteurs sont aussi dans ce cas-là, je ne pense pas être unique. L'idée c'est de correspondre aussi à ce type de lecteur.
Alors c'est vrai qu'il y a la lecture par rapport au bouquin, c'est vrai qu'il y a aussi la lecture audio maintenant qui existe
oui.
depuis quelques années. Et on peut soit l'écouter juste ou soit écouter et lire en même temps. Alors ça je pense que c'est encore plus compliqué. Vous avez testé ce genre de choses, juste écouter un livre finalement?
Alors j'en ai écouté, après je suis aujourd'hui en recherche d'infos pour passer les miens en version audio parce que ça peut permettre aussi à des personnes, il y en a beaucoup qui écoutent des livres audio aujourd'hui en voiture et ça peut aussi permettre à des personnes, bah, des malvoyants, choses comme ça, d'accéder au fait à la lecture.
Mmh. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un peu comme un podcast finalement.
Exactement.
Quoi. Donc oui, tout à fait. Bon, bah, très bien. Il me semble qu'à Grenoble, il y a une bibliothèque qui fait ce genre de choses avec des bénévoles.
Je me renseignerai.
Il me semble. Voilà.
Vous donnerez le contact.
La petite info au passage. Alors là, c'est par rapport à tous ces livres-là. J'en ai oublié un ou pas?
Et il y a le dernier.
Le dernier, ah oui, qui est en cours.
Ah non, celui-ci, il est sorti, c'est Né contre le vent.
Né contre le vent.
C'est pareil, c'est de la fiction. C'est sous fond de saga familiale, au fait, d'héritage et de quête de vérité. Voilà.
Qui doit parler à pas mal de monde, tout ça.
Exactement. Pour ceux qui ont un petit côté, c'est un roman qui est ancré, au fait, dans tout ce qui est secret de famille, silence, et qui se déroule en Bretagne.
D'accord, donc là, hop, on voyage un peu.
Voilà, on a essayé de voyager un petit peu.
Voilà, en même temps.
Exactement.
Ouais, on va prendre de l'air frais du côté de chez les Bretons. Donc ça, c'est pour le dernier qui est sorti.
Le dernier qui est sorti, voilà, Né contre le vent.
Mais vous écrivez assez régulièrement, parce que là, vous êtes déjà en train d'écrire un autre livre.
Alors là, je suis déjà en train d'écrire un autre livre, c'est-à-dire que Né contre le vent a été, en fait, écrit à la base pour participer à un concours d'écriture. Donc j'avais une deadline à respecter.
Ah oui. Ça, c'est encore plus compliqué, j'imagine, non, quand on a une deadline en plus.
Bon, c'est-à-dire que j'y passe un peu de soirée, un peu de week-end.
Ouais, forcément, plus assidu, c'est ça?
Exactement.
On se force un petit peu. Et du coup, c'est quoi ce concours? Racontez-nous un petit peu comment vous travaillez tout ça.
C'est un concours pour une maison d'édition, en fait, où bah, ils vous donnent un thème, un nombre de mots à respecter, votre doit faire entre temps et tant de mots, avec un thème qui développe ou pas. Et là, l'histoire, c'était d'avoir une héroïne forte et indépendante. Et du coup, l'histoire d'Eléa dans Né contre le vent est tournée sur ce côté, au fait, une personne indépendante, quelque chose d'intense, de lumineux aussi, parce que bah voilà, je voulais pas forcément faire que des choses tristes et
sombres.
Voilà.
Faut apporter un peu de lumière quand même dans ce monde.
Exactement. Et voilà, là c'est aussi sur tout ce qui est loyauté et la force d'Eléa à se construire malgré les embûches qu'elle va traverser.
Alors c'est ce livre-là, la deadline, et c'est quand?
Alors ça a été fait fin avril.
Ok. Et là voilà. Vous attendez quoi, les résultats?
Voilà.
Ça marche.
On attend.
Ouais, c'est ça. Vous avez une deadline pour vous donner réponse ou pas?
Ça ne sera pas avant la rentrée.
D'accord. Bon, bah voilà. On nous redirait au cas où, voilà, où si vous avez eu quelque chose, un petit prix, n'hésitez
exactement.
Pas. On sera content de savoir tout ça. Alors, bon, bah, ça, c'est tout ce qui est écrit en cours. Et du coup, bah, des fois, il y a de la promotion, ce qu'on appelle, pour parler de ces livres, etc., séance de dédicace. Racontez-nous un petit peu si vous avez de l'agenda par rapport à ça.
Alors, je serai en séance de dédicace à l'IPRU, dans la partie culturelle de Pont de Beauvoisin, le samedi 29 août 2026. Donc, toute la journée. Et il y aura tous les romans qui seront disponibles, sauf celui qui est en cours d'écriture, parce que je pense qu'il ne sera pas fini.
Oui. Mais il y aura au moins les...
Il y aura les 5.
5, voilà, c'est ça.
Voilà, sachant qu'ils sont déjà en vente, en fait, dans l'espace culturel, les rues Pont de Beauvoisin. Et je les remercie d'ailleurs de faire confiance aux auteurs en auto-édition, parce que ce n'est pas tout le monde. C'est important de le souligner. Je serai également au salon Miri Livre à Miribel-les-Échelles le 10 octobre prochain.
Et oui, un rendez-vous bien connu sur notre secteur, effectivement.
On verra là-bas avec grand plaisir. Ça sera mon premier pour moi, mais j'ai hâte.
Et s'il y a des libraires qui nous écoutent, qui veulent potentiellement vous rencontrer, pourquoi pas mettre vos livres ou faire des séances de dédicaces, c'est possible, du coup?
C'est possible, avec grand plaisir. Il y a certains libraires qui sont tout proches d'ici, qui ont déjà les livres en lecture, et où, après lecture, j'espère qu'on pourra organiser des séances de dédicaces avec grand plaisir.
On n'hésite pas, si vous nous écoutez, que ça vous intéresse. Vous avez un petit mail, des réseaux sociaux où on vous retrouve assez facilement.
Les réseaux sociaux, Bénédicte Toski, voilà, tout est dessus, sur la page auteur, sur Instagram et sur TikTok.
Réseaux sociaux, vous avez un profil aussi sur les différentes plateformes.
Sur Babelio, ouais. Babelio qui est une plateforme autant pour les lecteurs que pour les auteurs. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ont lu ou qui liront les livres, un petit avis permet toujours bah voilà, d'avoir des retours, c'est toujours sympa. Mmh. Et ça permet aussi à d'autres de découvrir le livre, tout simplement.
Eh bien parfait, on n'hésite pas à suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qu'il faut. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant qu'on referme les portes de cette émission ?
Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir ouvert les portes, justement, et j'espère que, bah, on pourra se revoir, peut-être, pour celui qui est en cours d'écriture.
Eh bien oui, comme ça, on en fera, vous me direz de quoi il en retourne, le prix, comment ça a été reçu, les retours que vous avez eus et tout ça. En tout cas, on sera content de pouvoir souligner tout ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Très bonne journée, bel été.
Merci, de même.
Et puis à bientôt sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse.
À très bientôt.
Merci de votre fidélité, parce que je sais que vous écoutez la radio assez régulièrement.
En voiture, beaucoup.
Donc merci beaucoup. À la Bauche, c'est 92.2, si je ne dis pas de bêtises, chez vous là-haut.
Oui.
Eh bien, merci à vous, très bel été et à bientôt. Et vous, amis auditeurs, auditrices, vous pourrez réécouter cette émission, cet échange en podcast sur radiocc.fr. Très bonne journée à tous.
Culturez-vous, votre émission qui aborde tous les sujets culturels du territoire chartreuse et alentour sur RCC.